Faut-il une exception au droit du sol à Mayotte? La situation est explosive là-bas. Immigration galopante avec de nombreuses mamans qui viennent pour accoucher afin que l'enfant soit français. Il y a des manifestations tous les jours depuis 3 semaines. Il y a surtout des gros problèmes d'insécurité qui sont dénoncés par la population locale. La ministre Annie Girardin est arrivée sur place. Que faire face à la situation à Mayotte?
Nathalie Arthaud est avec nous, porte-parole nationale de lutte ouvrière. Drôle de forme de grand capital, l'industrie du tabac, Nathalie Arthaud.
C'est le profit avant tout, voilà. Toutes les méthodes sont bonnes, y compris pour nous empoisonner. C'est ça la réalité du capitalisme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
La secrétaire d'État aux Outre-mer, ou ministre d'ailleurs, je ne sais plus, Annick Girardin, est à Mayotte. Elle est arrivée sur place il y a quelques heures pour faire face à la grogne de la population, grogne et colère principalement sur la question d'insécurité. Elle a été interpellée directement, Annick Girardin. Regardez cet échange, tant mieux.
Le gouvernement
Que je représente.
Actuel que vous représentez,
les
gouvernements passés qui ont représenté la France, vous nous avez abandonnés, vous ne nous avez pas acceptés. Vous faites tout pour que nous nous sentions loin de la France. Nous avons toujours décidé d'être français. La France, nous, on l'aime. Okay, la France, nous, on veut être comme tous les départements de la France. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes le département le plus pauvre de France.
Hier, la ministre a été accueillie au cri de gouvernement assassin. Des mesures ont été annoncées, des mesures surtout pour lutter contre l'immigration illégale, mais les syndicalistes locaux ne sont pas convaincus. Écoutez.
Elle est venue, mais manifestement, elle n'a pas vraiment de mandat pour négocier. Elle n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Donc c'est extrêmement décevant, puisque les seules annonces qui ont été faites, ce sont des annonces à minima au niveau sécuritaire, donc ça ne nous satisfait pas du tout. J'ai l'impression que le gouvernement joue le pourrissement et une position attentiste. Les Mahorais ne veulent plus, ce sont simplement des responsables politiques qui viennent faire un petit tour de piste pour voir ce qui se passe, pour prendre la température. Ça, on en a vu des dizaines les précédentes années, ça suffit. Maintenant, il faut des engagements, il faut du concret. Donc il faudra que le gouvernement lui prenne une décision, qu'il y ait des arbitrages en faveur de Mayotte, parce que sinon la crise va s'installer, c'est dramatique.
Nathalie Arthaud, ce syndicaliste, il nous dit en gros ce que le gouvernement fait, c'est de la com, point. Il a raison ou pas?
Je pense que la situation, effectivement, elle est terrible. Bon, oui, l'État n'a pas assumé, finalement...
Son choix, il y a quelques années.
Son choix, oui, de couper quand même Mayotte de l'archipel des Comores. Parce que quand on dit c'est le peuple maoré qui a exprimé sa volonté d'être français, écoutez, quand même,
il faut abandonner Mayotte.
Y a eu des manœuvres en sous-main, vous le savez, vous parliez tout à l'heure des mercenaires russes, mais la France a envoyé des mercenaires dans l'archipel pour justement découper cette partie-là et se l'arroger pour garder une influence dans la région. Il faut quand même
ça,
le savoir.
Ça, c'était en 1974, oui, d'un point de vue de l'égalité internationale, en effet, ça pose problème
oui,
de détacher
problème.
Mayotte
alors,
des Comores.
Ils ont voulu... finalement préserver leur influence dans la région, leur influence politique, l'État n'en assume pas les conséquences. Et effectivement, ils ne mettent pas les moyens. Ça, je ne vais pas le redire, en termes d'école, les routes, l'accès à la santé, mais à l'éducation. Bon, mais plus largement, le problème de cette région, c'est pas l'immigration, c'est le sous-développement, c'est la misère dans laquelle est plongée, effectivement, Mayotte, mais aussi les Comores, mais aussi Madagascar.
Ils disent là-bas que l'un alimente l'autre, quoi. C'est ça,
mais le problème, c'est le sous-développement, ce sont ces inégalités qui sont complètement folle. Écoutez, il n'y a pas les moyens dans le monde. Il y a un milliardaire de plus tous les deux jours.
Ouais.
Tous les deux jours. 1%.
C'est pas ça qui va régler le problème aujourd'hui de la situation.
Non,
est-ce qu'il faut abandonner Mayotte?
Croyez-vous une seconde qu'il est possible de vivre dans un îlot un tout petit peu plus privilégié, on va dire, enfin, un peu moins pauvre que les autres, dans un océan de misère de plus en plus... Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Eh bien, il faut arrêter de faire croire qu'on peut vivre en érigeant des murs toujours plus hauts, en érigeant des barbelés, en coupant les peuples les uns des autres. Excusez-moi, mais quand même, c'est un archipel où la circulation a toujours été, été présente, où, y compris, écoutez,
oui,
quand même, les Comoriens, ce que je veux vous dire, les Comoriens à Mayotte, ils ont 1000 fois plus de raisons de se sentir chez eux que les Français. Donc,
bon,
ce que je veux dire...
on n'est pas sortis...
Moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, oui, il faut avoir une approche une approche internationale. On ne peut pas raisonner à l'échelle de notre petit, notre petite nationalité, de notre petit pays.
Le représentant.
Donc, il faut laisser
le problème il est international. Alors. Et moi, c'est pour ça que je suis une militante, effectivement, internationaliste. Je pense qu'il faut changer, effectivement,
Patrick
le monde.
Vignel.
Il faut prendre à bras le corps ces problèmes de misère, de sous-développement. Et tant qu'on ne le fera pas, eh bien, oui, on sera confronté
Patrick
à ce
Vignel,
genre de situation insolue.
Nathalie Arthaud, sur le droit du sol, vous répondez quoi, Patrick Vignel? Vous êtes d'accord avec lui ou pas?
Non.
Suspension?
Vous n'êtes vraiment pas d'accord pour qu'on essaie d'avoir une réflexion nouvelle? Parce qu'on est une situation d'urgence.
Alors laissez répondre Nathalie Arthaud, Patrick Vignel, nom d'un chien.
Mais la réflexion nouvelle, oui, ça serait de considérer l'humanité comme une et indivisible. Voilà.
Ce qui serait
vraiment moderne, c'est de se dire que oui, il faut se battre contre cette misère, contre ce sous-développement, contre ce pillage, mais on ne le fera pas.
Vous êtes à Mayotte, quoi concrètement pour ces gens? Qu'est-ce que vous ferez?
Je milite pour révolutionner la société, pour transformer le monde. C'est par ce bout-là qu'il faut le prendre. Ouais. Ne pas accepter justement qu'un continent comme l'Afrique, qui a été pillé, continue de l'être. Malgré tous les discours qu'on a sur l'aide au développement, moi je suis consternée, je suis révoltée. Souvenez-vous du projet de M. Borloo d'électrifier l'Afrique. Oui. Il avait estimé le coût de cette électrification à 4 milliards par an au niveau de l'investissement et en gros, globalement, 250 milliards. C'est rien. C'est rien au regard des richesses mondiales. C'est rien. On a eu encore les chiffres là du CAC 40, c'est-à-dire les 40 premières entreprises cotées en France, 93 milliards à elles seules sur une année. Bon, c'est rien. Eh bien, on ne démarre même pas. La réalité, c'est que tant qu'il n'y en a que pour ces grandes entreprises qui accaparent les fruits de la croissance, genre, les chiffres d'Oxfam expliquent.
La croissance. On parle de Comores et de Mayotte. Comment vous faites pour donner de la dignité aux Comoriens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'on leur donne l'éducation, qu'on leur donne tout, et qu'à la fin, Mayotte redémarre? Comment vous faites?
Vous, votre solution, c'est de leur dire restez crevés chez vous.
Non, c'est pas ma solution.
Et moi, ce que je voudrais dire à Madame Arthaud tout à l'heure, vous disiez que le grand capitalisme était responsable de la situation. Alors, on peut certes condamner un certain nombre de déviances d'une certaine frange du capitalisme, mais je voudrais simplement vous rappeler ou vous dire que le grand capitalisme ou le capitalisme a sorti de la très grande pauvreté 2 milliards de personnes dans le monde, et notamment en Afrique, et notamment dans l'archipel des Comores.
La preuve, ça ne suffit pas, parce que sortir de la très grande pauvreté pour juste pouvoir survivre, quand à côté, vous pouvez avoir l'espoir de mener une vie choisie, une vie davantage prospère, plus de sécurité, eh bien c'est vécu comme une bouée de sauvetage. Moi j'entends la maman qui vient des Comores pour accoucher et on le sent bien. Elle dit mon enfant il a peut-être un avenir comme ça et je le fais pour que mon enfant il ait un avenir. Et tant qu'on sera dans une situation comme ça, où être français, où franchir des mers, eh bien ça sera vécu comme une question de vie ou de mort, eh bien cela continuera, parce que moi je ne crois pas qu'on arrêtera. Et par ailleurs, je ne crois pas qu'on arrêtera tant qu'il y aura de l'énergie, de gens, mais l'énergie pour marcher, mais les gens, ils iront vers ce qui est de mieux.
Comme quoi la France n'est pas si mauvaise, même dans les pires conditions.
Et par ailleurs, je pense que, puisque effectivement, moi j'ai ce projet de ne pas accepter la situation telle qu'elle est, alors qu'elle est acceptée par tous les gouvernements, que cette misère noire, elle est acceptée sans aucun problème, et ils peuvent faire du business dans tous ces pays, et il y a des poches de très grandes
richesses. À Mayotte, je vous rassure, il n'y en a pas.
Non, pas à Mayotte, mais à côté, à Madagascar, autour, à La Réunion, y compris en Afrique.
Un chiffre.
Et la France, elle prospère là-dessus. Juste, je veux dire une chose, c'est que dans l'urgence, vous me dites, mais qu'est-ce que vous faites dans l'urgence? Ben dans l'urgence, la France, elle assume. Et il faut arrêter avec ces chiffres délirants. Il y a 256 000 personnes sur l'île de Mayotte. C'est pas non plus un problème qui serait insoluble de mettre effectivement en place des hôpitaux, des écoles, des logements, et on les met sûrement pas suffisamment.
Autre chiffre.
8 milliards. Alors,
il faut répartir ces gens sur le territoire national. Et là, on aura une équité. Parce que les gens qui traversent les Comores pour venir à Mayotte, ils se retrouvent dans une situation qui est très compliquée. Vous partagez mon analyse.
Mais elle est compliquée du fait de la misère, du fait qu'il n'y a pas d'emploi, du fait qu'il n'y a pas de logement,
mais
du fait qu'il n'y a pas d'éducation. Construisez une école par jour. Il y aura de l'emploi qui sera créé.
Le taux de chômage, on le voit ici.
Bah
Ce qui me consterne, c'est qu'on parle d'immigration clandestine, on parle d'étrangers, comme s'il fallait absolument se méfier, parce que c'était vrai, le mal incarné.
Mais on n'a jamais dit ça.
Et on traite effectivement ces femmes et ces hommes qui sont dans la misère, mais comme avec quelle arrogance, avec quel mépris.
Que vous avez vu de l'arrogance ?
Mais dans ce que dans cette blague de Monsieur Macron, hein, comme si. Mais enfin voilà. Encore une fois, oui, il y a un aspect humain, hein, dans tout ça, et on a pris l'habitude. Hein, vous n'êtes pas français, c'est les lois, clac, vous n'avez pas les bons papiers.
Allez,
de toute façon,
il y a un autre sujet.
C'est fatigant avec vous, parce que chaque fois, on a l'impression, nous, qu'on ne respecte pas l'humain, et que vous êtes l'abbé Pierre, la mère Teresa réunie. Nous, on a un vrai problème à Mayotte, hein, qu'il faut régler. Oui. Et ce n'est pas uniquement en étant sûr de l'humain, mais ce qu'on a aussi.
Parce que justement...
Mais est-ce que vous êtes républicaine, madame ?
Parce que la politique de ce gouvernement, c'est le business d'abord, c'est le fric avant tout, on accumule... Et on aide les plus fortunés et on laisse les plus pauvres dans la galère. C'est vrai, ici.
On arrive au sujet SNCF, on va encore se disputer.
Il y a un sujet qui va vous inspirer. Merci Patrick Vignal de faire la transition. C'est vrai, la SNCF. Avec une ambiance tendue. Hier, il y avait un événement organisé par la SNCF pour les 80 ans de l'entreprise et des syndicalistes se sont invités sur place vu le contexte. Écoutez. Voilà, pas mal de tensions. On va écouter un représentant syndical qui était sur place.
Et la SNCF en 2017, c'est 1,3 milliard de bénéfices. Donc elle a les moyens de financer ce statut. Le gouvernement, il a compris que le statut n'était pas populaire auprès de la population. Donc il met en avant, pour pas, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, on parle de la privatisation de la SNCF. Et ça, je peux vous dire que la privatisation de la SNCF, les voyageurs, ils sont très majoritairement contre.
Ah bah, il faudrait faire un sondage dans les rames de train, ça serait intéressant. Nathalie Arthaud, est-ce que cette bataille-là, ça va être une bataille particulièrement symbolique de votre point de vue ?
Oui, parce que Macron l'a voulu comme ça.
Hein, vous croyez qu'il fait exprès de mettre de l'huile sur le feu ? Il veut que ça fight, comme on dit. Quoi.
Très clairement. Il veut sa guerre contre les cheminots, parce qu'en fait, il veut en faire une leçon pour tous les travailleurs. Voilà, il veut faire la démonstration que lui, il est capable... Hein, de faire toutes ces réformes. Il veut le démontrer finalement à son monde, au grand patronat. Hein, regardez, moi, je suis capable. Et puis, voilà, il veut signifier aux travailleurs, aux chômeurs, que rien ni personne ne l'arrêtera. Voilà, qu'il continuera. Parce que moi, j'ai été frappée par l'attaque frontale au niveau du contenu, hein, mais aussi par la méthode, parce que les ordonnances, c'était quand même une façon de dire, vous voyez... Il s'est installé, ce gouvernement, en expliquant qu'il était le gouvernement du dialogue social, qu'il allait prendre le temps, discuter avec les syndicats, etc. Oui, mais ce qui est assez remarquable, c'est que là, sur les cheminots, crac, on passe directement aux ordonnances. Donc, il y avait aussi de la provocation. Oui, il veut sa guerre contre les cheminots et il ne l'a pas gagné.
La SNCF ne va pas fragiliser Emmanuel Macron. D'abord, moi, je me félicite d'abord que les petites lignes, parce qu'il n'y a pas de petites lignes, soient maintenues. Parce que je vous rappelle que pour les gens sur les territoires ruraux, ils puissent se déplacer, c'est de l'économie. L'écologie, c'est de la mobilité et de la recherche de l'emploi. Cette entreprise a quand même 50 milliards de dettes et ces dettes sont portées par les 60 millions de Français. Donc à un moment donné, je suis désolé madame, gouverner c'est aussi prendre des actes et faire des choses.
C'est la dette de l'État.
En ce qui concerne les cheminots, moi je partage.
Non mais je crois que la mobilisation, elle démarre véritablement le 22 mars.
On verra, je dis pas que ce sera.
Il est le 22 mars et moi j'espère que oui, les cheminots vont se battre fièrement pour défendre leurs conditions de travail.
Moi je fais un commentaire.
Pour défendre y compris leur sécurité de l'emploi, y compris pour défendre leur grille salariale. J'espère qu'ils vont se battre.
Parce que c'est ce que les cheminots qui sont en activité ne sont pas affectés par la réforme.
J'espère que le budget de la soirée des 80 ans était moins élevé que les précédents événements notamment organisée par Guillaume Pepy, parce que les budgets communication de la SNCF, c'est aussi un sujet. Et pendant des années, ça a été quelque chose. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même s'en était plaint pour l'inauguration de la ligne de la ligne Bordeaux, où il y avait caviar, etc. Il avait compris que ce n'était pas tout à fait une bonne idée.
Ils sont évidemment affectés par cette réforme, parce que qu'ils soient au statut ou pas au statut, si la ligne passe au privé, ils seront transférés au privé. Ils passeront avec les locomotives, avec les rails.
Ce débat sur la SNCF,
ils passeront aux conditions.
Il ne fait que commencer, et vous l'avez compris, le projet de loi sera présenté demain. On aura l'occasion d'en reparler, parce que vous le constatez, le débat est loin d'être clos. D'abord, un autre sujet. Est-ce que vous êtes, enfin vous êtes d'ailleurs, je ne vais pas faire semblant de poser la question, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter les uns les autres. Est-ce que vous avez déjà pensé en sortir, Nathalie Arthaud ?
Elle n'est peut-être pas du tout sur Twitter, Nathalie.
Ils y sont tous, ils y sont tous, on a vérifié.
Voilà, Twitter, Facebook, enfin, alors je me fais aider.
Vous êtes la totale, ah bon.
Vous avez un web, comment
des petites mains,
des bons camarades qui essayent de suivre le rythme, voilà.
Mais vous n'avez jamais pensé en sortir, donc je ne sais pas, vous devez vous faire...
Non,
vous intervenez, vous devez vous faire...
Évidemment que non, c'est quand même un moyen de s'exprimer qui est direct. Justement, là, on n'est pas forcé de passer par le filtre médiatique, d'attendre une invitation qui n'arrive jamais. Donc, évidemment...
Si vous êtes régulièrement invité...
En effet,
Patrick Vignal, vous avez déjà songé à sortir ou pas ?
Non, je m'excite des fois quand je me fais un peu alpaguer, mais c'est le jeu, vous l'avez dit, c'est le jeu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on profite pour les bonnes nouvelles et puis quand on se fait épingler, on vient d'en sortir. Donc je pense que c'est un peu excessif, intrusif, et je remercie la presse.
Ah.
Et c'est important parce qu'au départ, il y a un débat, les journaux, papier, tous ces fakes, et quelque part pour les médias et pour les vrais journalistes, hommes et femmes qui font leur métier, c'est intéressant parce que je dis aux citoyens de vérifier les informations sur la presse.
Raphaël Smati.
Non, j'ai jamais pensé quitter les réseaux sociaux, mais j'ai une attitude assez distanciée avec ça. Et en fait, je trouve que c'est quand même symptomatique d'une société qui va de plus en plus vite, une accélération effrénée. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu. Et les personnes qui quittent les réseaux sociaux parce qu'elles ont eu, il s'est passé des choses peut-être
victime
un petit peu trop
haters.
Passionnelles, oui, ou se sont embarquées dans des joutes parfois un peu violentes. Il faut avoir conscience que justement, on est pris dans ce tourbillon d'accélération et qu'il faut être capable de ralentir.
Ouais.
Et donc de ne pas se laisser prisonnier justement de cette accélération.
Il y en a pas mal, de plus en plus. Oui, c'est difficile.
C'est parfois difficile. Bon, il y a le débat qui est, lui, légitime. Et puis, il y a l'injure, les propos racistes, sexistes, antisémites, qui sont absolument intolérables. Donc, il faut se fixer certaines règles. Moi, je bloque immédiatement toutes les injures. Pourquoi se faire du mal ? Je peux arriver à mon âge pour me battre avec des bouquets d'orties, ça va. Je vais pas d'ailleurs répéter les mots absolument injurieux qu'on a à mon égard. On peut me dire que j'ai tort, bien entendu. Mais il y a des injures sur le physique, sur ma famille qui sont absolument intolérables. Donc ça, je le bloque immédiatement.
Et c'est lâche du clavier, cela.
C'est le vertige de la lettre anonyme, parce que ce sont jamais des gens identifiés qui font ça.
C'est à la suite de ça.
Ce sont toujours des pseudos.
Que plusieurs personnalités ont fini par, elles, franchir le pas et à quitter les réseaux sociaux. La dernière en date, c'est Karine Le Marchand, l'animatrice de M6. Elle a décidé de quitter Twitter à la suite de toutes les insultes qu'elle a reçues, qu'elle a subies. Mais elle n'est pas toute seule. Regardez Michel Cymes, Jean-Christophe Cambadélis, y compris chez les plus jeunes, Matt Pokora ou bien encore Caroline de Haas, qui se sont fait insulter copieusement sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué, Karine Le Marchand, qu'elle voulait quitter ce qu'elle considère comme un déversoir de haine. Elle n'approuve plus de plaisir à communiquer sur les réseaux sociaux. Elle ne veut pas réduire sa pensée, changer son humour, devenir politiquement correcte et se renier. C'est vrai que c'est ça le risque aussi, Patrick Vignal. Sur les réseaux sociaux, souvent, le réseau social ne comprend pas le deuxième degré.
Oui, je pense qu'on va trop vite. On est une société de consommation. Aujourd'hui, tout le monde est branché sur Twitter, Facebook, et on oublie le fond.
Ouais.
Et la forme est le plus important. Mais encore une fois, personne n'oblige à prendre un compte Twitter ou un compte Facebook.
Enfin, je crois qu'on n'a plus vraiment le choix aujourd'hui pour être présent sur l'ensemble des canaux.
Mais je suis désolé, je ne crois pas que Karine Le Marchand ait besoin de Twitter pour faire excellemment son métier, ce qu'elle fait très bien. Moi, j'aurais plutôt envie de dire de résister à la haine, de résister à ces lâches derrière des fakes. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faudrait faire, c'est résister.
Raphaël Enthoven, lui aussi, défend son fils qui est victime d'insultes antisémites.
Pourquoi je prends la parole aujourd'hui ? D'abord parce que ça peut me permettre de faire passer éventuellement mon message, c'est-à-dire soigner votre esprit critique, c'est très important. Quand ils viennent attaquer mes parents sur ma page, c'est pas pour attaquer mes parents, c'est pour m'attaquer moi.
Est-ce que le fait de relayer les propos haineux, voire de quitter, ça n'est pas donner raison, un peu Nathalie Arthaud, à ceux qui se livrent à ce genre d'insultes aussi ?
Moi, je crois que sur les réseaux sociaux, Twitter ou autres, il y a à boire et à manger, évidemment. Oui, il y a un déversoir, c'est anonyme, effectivement. Mais je pense que Twitter et les réseaux sociaux n'ont pas le monopole de la propagande, de la calomnie et de la bêtise, hein, honnêtement.
Ça, c'est sûr. Et là,
je peux vous dire que parfois, à la radio et à la télévision, j'ai bien envie de... voilà. Et
oui,
parfois,
mais enfin, il y a quand même... mesure qui est respectée quand même dans les médias plus traditionnels. Vous avez lu les insultes dont est victime Aurélien Toven.
Je suis tout à fait d'accord. Souvent, à la radio et à la télévision, le discours est très polissé, tout est très posé, et en même temps, on a des campagnes de propagande qui sont insupportables. Bon, moi, j'ai été frappée par la dernière campagne en cours, la campagne contre les cheminots, qui m'a vraiment frappée. Parce
on ne peut pas tout mélanger, Nathalie Arthaud.
Si, mais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement choquant, révoltant. Mais écoutez, quand vous avez des journalistes qui sont employés à vie, qu'on voit depuis 20 ou 30 ans à la télévision nous expliquer...
Parler du service public, vous voulez le démanteler, c'est ça ?
Que la sécurité de l'emploi n'est plus de ce temps. Franchement, moi, les bras m'en tombent. Ou quand ils nous expliquent quand même un guichetier ou
un
travailleur est privilégié parce qu'il a la possibilité de voyager gratuitement et que lui...
Mais on est dans l'opinion, là, pas dans l'insulte, Nathalie Arthaud, franchement.
Il
ne faut pas comparer. Mais
sauf que là, il y a une fabrication de l'opinion publique avec une puissance bien plus importante, je pense, que les réseaux Twitter
et Facebook. Est-ce que les réseaux sociaux sont devenus... Nathalie Arthaud.
Non, mais moi, je n'attends pas à être aimée sur les réseaux sociaux.
On est d'accord. On est d'accord.
Donc, voilà. Et je sais par ailleurs que ce que je dis excite beaucoup de monde et même voilà.
Et vous le recherchez. Et quelque part vous le cherchez.
Pas du tout. Ce sont mes convictions. J'essaye évidemment de convaincre. J'assume ce que
vous les assumez.
Voilà, j'assume ce que je suis, ce que je défends, etc. Et par ailleurs, je sais que je gagnerai pas l'ensemble, le point de vue de l'ensemble de l'opinion publique. Moi, mon problème, c'est de gagner l'opinion ouvrière, c'est de gagner l'opinion des travailleurs, ceux qui justement ont un certain point de vue. Parce qu'ils ont une certaine place dans la société.
Du boulot contre Marine
Le Pen,
hein.
Donc voilà. Alors bon, maintenant.
Est-ce que ça vous touche
encore
personnellement?
Ça me. Écoutez, vous avez. C'est la bave du crapaud.
Non, mais vraiment, sincèrement, ça vous touche jamais?
Mais même y compris quand j'ai des. Comment dire? Quand il y a des gens qui se sentent, enfin, qui sont, qui ont de l'argent, qui sont fortunés, qui se sont sentis mis en cause par un certain nombre de choses que j'ai pu dénoncer, eh ben, je me dis que j'ai atteint mon but.
Ouais. Non, mais pour vous,
voilà, c'est comme ça.
Sujet de débat maintenant qui concerne là aussi un patrimoine immatériel ou matériel d'ailleurs de la France. C'est le pain, c'est la boulangerie, mais surtout peut-on travailler 7 jours sur 7 dans les boulangeries? On a appris qu'un boulanger avait écopé d'une amende dans un département que vous connaissez bien, Patrick Vignal, pas très loin de chez vous, qui est le département de l'Aude, pour avoir vendu du pain 7 jours sur 7 pendant l'été. 3000 euros, figurez-vous, d'amende, quand même. C'est évidemment beaucoup d'argent. Nathalie Arthaud.
Moi, je ne partage pas du tout ce que vous venez de dire. La pression qu'ils subissent, c'est la pression de la concurrence, c'est la pression des plus gros, là, en l'occurrence, des centres commerciaux. Ouais. C'est la pression des banques, c'est la pression des propriétaires immobiliers, parce qu'il faut qu'ils louent leur
C'est peut-être toutes ces pressions-là en même temps.
Et donc, effectivement, avec tout ce qui leur tombe sur les épaules, oui, beaucoup doivent y passer leur vie au boulot. Beaucoup de petits artisans, commerçants, y passent leur vie pour se dégager un salaire. Donc ça, c'est effectivement la loi du système, hein. C'est la loi du plus fort. Et effectivement, beaucoup de travailleurs à leur compte la subissent. Mmh. Mais les salariés sont au bout du bout.
Vous leur dites quoi à ces petits patrons? Vous dites, moi je vous soutiens.
Mais je leur dis qu'un grand nombre devraient effectivement, finalement, comprendre les intérêts qu'ils ont en commun avec les salariés qui demandent des protections, qui demandent des limitations, qui refusent de passer à la moulinette, d'être pressés comme des citrons, parce qu'effectivement, on a une vie. Parce qu'effectivement, l'économie, l'homme ne doit pas être au service de l'économie, ça doit être l'inverse. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'espère que beaucoup de ces... Enfin, malheureusement, la réalité, c'est qu'ils soient engagés dans un... c'est comme les agriculteurs. Comme les petits agriculteurs qui travaillent 7 jours sur 7, mais qui de toute façon travaillent en fait pour Monsanto, qui travaillent pour les grands, les Lactalis ou les banques, ou pour les banquiers. Bon, mais en même temps, ils sont petits patrons. Donc en fait, ils se battent pour leur truc. Ouais. Ils sont quelque part piégés par le système. Alors bon, moi, ouais. mon point de vue, c'est le point de vue, encore une fois, des salariés. Hein, de tous.
Et ce
point de vue, c'est de dire
Je suis obligé de corriger votre. Je suis obligé de corriger l'aberration que vous venez de dire. Vous dites les agriculteurs travaillent pour Lactalis. Non, les agriculteurs sont des entrepreneurs, sont des patrons qui passent leur temps dans leur exploitation et ils vendent à des clients dont certains peuvent s'appeler Lactalis.
Mais qui ont le monopole de la collecte du lait dans certaines régions, donc ils n'ont pas le choix.
On va entendre peut-être. Merci à tous pour être venus dans l'émission ce matin.